Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté aujourd'hui par Eric, accompagné de Didier.
Bonjour Didier. Eric et bonjour à tous.
En partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Agnan, et aujourd'hui nous allons parler de deux événements qui se sont passés récemment. L'un très récemment, mais on y reviendra un peu en fin d'émission, c'est l'éclipse solaire qui a eu lieu il y a deux jours. Et un autre événement qui a lieu un petit peu plus avant, c'est l'équinoxe de printemps. Alors, on va commencer par parler de l'équinoxe et on reviendra sur l'éclipse un petit peu plus tard. Ce qui nous amène à parler de la position de la Terre par rapport au Soleil. Il est important de savoir que la Terre, elle tourne bien sûr autour du Soleil. Ça, on le sait depuis à peu près le XVIe siècle, début du XVIe siècle, avec Copernic qui l'avait découvert. Mais la Terre a des positions bien particulières que l'on appelle les équinoxes et les solstices. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil, je l'ai dit, mais elle tourne également sur elle-même. Et ensuite, non seulement elle tourne sur elle-même, mais elle ne tourne pas dans le plan du Soleil, elle tourne de façon penchée. C'est ce qu'on appelle l'obliquité, cette inclinaison de son axe de rotation. Et on va voir tout au fil de l'émission que, en fait, elle bouge en permanence. Et on va voir aussi pourquoi. Alors, je vais revenir un petit peu sur les équinoxes. Alors, tous les ans, à la même époque de l'année, c'est-à-dire le 20 ou le 21 mars et le 22 ou 23 septembre, on verra pourquoi, il y a une précision un petit peu floue, le Soleil, dans son mouvement apparent, puisque on va se replacer un petit peu dans les conditions de l'Antiquité et de la découverte de ces positions, c'est-à-dire qu'on pensait à l'époque que la Terre était le centre de l'univers. Et on va parler de mouvement apparent du Soleil, c'est-à-dire que le mouvement que fait le Soleil, tel qu'on le voit de la Terre. Alors tous les ans, ce Soleil, il bouge, et tous les ans, vers le 21 ou le 21 mars ou le 22 et 23 septembre, il passe au même endroit. Et c'est un endroit qui est assez particulier, puisque cette période-là correspond au moment où il coupe l'équateur de la Terre. Et ça s'appelle les équinoxes. Alors, les équinoxes, c'est un terme très précis également, parce que à ce moment-là, cette journée-là, on a une égalité parfaite entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se situe, par exemple, sur l'équateur, quand il va observer le soleil, et que le soleil est au zénith, il va le voir effectivement au zénith, mais complètement. Et ce qui fait que partout sur la Terre, les terriens auront une égalité entre le jour et la nuit. Alors, ce que je dis est un petit peu faux, parce qu'il y a deux points sur lesquels on n'aura pas cette égalité. Et je suppose que Didier, tu as une idée de ces deux points-là.
Je pense que si on se situe au niveau des pôles, on n'aura pas de jour ou de nuit, puisque le soleil rasant fait qu'on en sera en plein jour.
Voilà, pendant 24 heures, on aura droit au jour. Alors, encore faut-il pouvoir se déplacer sur le pôle nord ou sur le pôle sud. Pour l'instant, fort heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas encore de voyage organisé pour y aller, et c'est très bien comme ça. Mais ce sont deux points particuliers. Sinon, partout ailleurs, on a également l'égalité totale entre le jour et la nuit. Alors, le principal moment dans l'année, c'est quand même l'équinoxe de printemps, puisque c'est elle qui va déterminer la position du soleil. Et alors, l'équinoxe de printemps, donc j'ai dit que c'était le 20 ou le 21 mars en général, on lui donne un autre nom. Ce nom, il s'appelle le point vernal. Alors, il est désigné par une lettre grecque. Laquelle ?
Là, je vais sécher.
Alors, Didier sèche, je vais vous le dire. C'est la lettre gamma. La lettre gamma, alors, pourquoi utiliser la lettre gamma pour désigner le point de l'équinoxe de printemps? Et bien, tout simplement, parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, quand on a étudié ce moment-là, on avait, je l'ai dit, on était persuadé que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour. Et on s'est aperçu que le Soleil, à cette époque-là, se trouvait dans une constellation bien particulière. Cette constellation, c'est la constellation du Bélier. Et quand vous regardez le signe qui est représenté pour la constellation du Bélier, il fait Bélier avec des cornes. Et Gamma, la lettre grecque, quand elle est dessinée, fait penser à une tête de Bélier. Voilà, alors c'est tout simple, ça n'a rien de scientifique du tout, mais effectivement, c'est comme ça qu'on a appelé le point vernal gamma. Alors on dirait, oui, au printemps, on a le point gamma, et à l'automne. Eh bien, à l'automne, comme on n'a pas véritablement réfléchi à lui donner un autre nom, on l'a tout simplement appelé gamma prime. Alors, le problème, c'est que je dis que les dates changeaient. Et pourquoi les dates changent? Eh bien, tout simplement parce que la Terre, elle n'est pas ronde. Ça n'est pas une sphère parfaite. Elle est un petit peu aplatie au pôle. Et elle a un bon petit renflement sur l'équateur. En plus de ça, vous y rajoutez deux éléments importants que sont la Lune et le Soleil. Et on a ce que l'on appelle des effets de marée. Et les effets de marée du Soleil conjugués à ceux de la Lune font que la Terre n'est pas fixe sur son axe. Ça s'appelle la précession. Alors c'est un terme un petit peu barbare, ça vient du latin, et ça veut dire action de précéder. Et chaque année, le point vernal, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, varie, alors de quelques secondes en angle, hein, mais ça varie quand même un petit peu, et au bout d'un certain temps, ça commence à faire beaucoup. Ça varie d'à peu près de 50 secondes d'arc, soit 1 degré tous les 72 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus quelque chose de perceptible pour nous, humains, sur la Terre. Cette précession, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'elle existe. Hein. On l'a découvert il y a très très longtemps, et ce serait Hipparque, un astronome grec qui a vécu entre 190 et 120 avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même un bout de temps, et qui a remarqué cette évolution. L'axe sur lequel tourne la Terre semble se déplacer lentement. Ça sera confirmé un petit peu plus tard, et encore aujourd'hui, bien sûr, on sait que ça se passe comme ça. Alors ça m'amène à parler de deux termes que l'on peut rencontrer également dans les ouvrages d'astronomie, ou simplement dans des ouvrages qui expliquent les mouvements de la Terre, sans être trop spécialisé. Les années. Alors, il existe en fait deux années différentes. On connaît notre année calendaire sur notre bon vieux calendrier grégorien. Mais en fait, on a ce que l'on appelle l'année tropique et on a également l'année sidérale. Alors vous me direz, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Alors à quoi ça sert? Déjà, ça sert essentiellement aux scientifiques et aux astronomes pour calculer les positions de la Terre et vérifier les positions des étoiles par rapport à la Terre. Donc, pour le commun des mortels, c'est complètement transparent. Alors, l'année tropique, en fait, c'est l'intervalle de temps qui sépare deux équinoxes de printemps. Voilà, ça s'appelle une année tropique. D'accord. Et l'année sidérale, c'est le temps au bout duquel les étoiles et le Soleil retrouvent leur position relative antérieure, c'est-à-dire le même point exact que l'année précédente. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence. Cette petite différence, elle est de l'ordre d'environ 20 minutes par an. Donc c'est relativement peu. Donc voilà un petit peu les différentes positions et ce qui en découle. Alors, cette précession, elle a une cause. Et je l'ai dit, c'est mécanique. c'est encore une fois dû au fait que la Terre n'est pas ronde, mais également la force de marée qui résulte des actions de la Lune et du Soleil et qui la font bouger sur son axe. Alors, pour s'imaginer un petit peu le mouvement qui est donné, il faut regarder une toupie. Il faut imaginer une toupie qui tourne, que l'on lance sur son plateau. Et bien souvent, on s'apercevra que alors, le point qui est au sol, lui, ne bouge pas. Il est fixe. Mais par contre, la queue de la toupie, elle va avoir un petit tremblement. Et ce qui va dessiner un cône. Et ce cône, c'est lui qui figure le mouvement de précession de la Terre. Et ce cône a une conséquence. Une conséquence assez importante. Alors même si aujourd'hui, ça ne va pas nous perturber beaucoup, et pendant de nombreuses années aussi. Mais l'axe des pôles ne va pas viser la même étoile au cours du temps. C'est ainsi que ce qu'on appelle aujourd'hui l'étoile polaire, qui est représentée aujourd'hui par la direction suivie par l'axe des pôles et qui tombe sur une étoile de la petite ours que l'on appelle Polaris. Et il faut savoir qu'il y a quelque temps avant nous, c'est-à-dire à peu près dans les années 3000 avant Jésus-Christ, c'était une étoile de la constellation du dragon qui s'appelle Tuban, qui est beaucoup moins lumineuse et qui servait d'étoile polaire. Et si on continue comme ça, avec le déplacement, comme je l'ai dit, de quelques degrés tous les 72 ans, dans environ 12 000 ans, c'est l'étoile Vega de la constellation de la Lyre qui va devenir l'étoile polaire. Alors celle-là, il n'y aura pas de souci pour la viser, hein, puisqu'elle est très très brillante. C'est l'une des plumes brillantes de la sphère étoilée du soir. Donc voilà un petit peu les conséquences d'une équinoxe. Et c'est pas rien, parce qu'en astronomie, ça a des conséquences sur les calculs et ça permet à nos scientifiques de mieux se repérer. Alors, ça a d'autres conséquences également, et ça a eu d'autres conséquences, même si aujourd'hui c'est moins important, sur notamment le calcul de la course du Soleil et sa position pour calculer ne serait-ce que les heures et la fabrication de nos cadrans solaires. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans une autre émission, parce que ça demande des explications un petit peu plus complexes. Voilà, alors, il faut, pour être complet sur ce sujet-là, j'ai parlé des équinoxes, mais vous savez qu'il y a deux autres positions qui sont, je dirais, schématiquement parlant, perpendiculaires à l'axe des équinoxes, ce sont les solstices. Alors, qu'est-ce qu'un solstice ? Alors, on en a deux.
Les solstices d'hiver et le solstice d'été.
Et voilà. Autant on a les équinoxes de printemps et d'automne, et on a nos solstices en été et en hiver. Alors, le solstice, c'est quoi ? C'est un événement qui se produit deux fois par an, et lorsque la position apparente du Soleil atteint sa plus grande inclinaison vers le nord ou vers le sud. Et la conséquence, c'est qu'on a une journée qui est soit très longue, soit très courte, c'est-à-dire la plus longue ou la plus courte de l'année. Et c'est dû à la position de la Terre par rapport au Soleil, ou du moins du Soleil par rapport à la Terre. En été, on aura un Soleil qui sera... Alors, sera-t-il plus proche ou plus loin de la Terre ? La question est posée. Donc, elle sera, contrairement à ce que pense tout le monde, en été, le Soleil sera beaucoup plus éloigné, son point le plus éloigné de la Terre. Malgré tout, il fait plus chaud dans notre hémisphère nord, tout simplement, c'est encore dû à l'inclinaison de la Terre. Et en hiver, il sera le plus proche au solstice d'hiver, le plus proche de la Terre, et bien qu'il soit plus proche, on aura plus froid, tout simplement parce que ces rayons seront plus tangents par rapport à la Terre et nous chaufferons beaucoup moins qu'en été. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les questions d'équinoxe et de solstice. « Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel avec aujourd'hui pour terme les positions de la Terre et notamment on a expliqué ce qu'étaient les équinoxes et les solstices et la conséquence de ces positions de la Terre font qu'on a découvert que grâce à la rotation de la Terre autour du Soleil, on avait des jours et des nuits qui avaient des différences de temps et de longueur, mais également, grâce à ces positions et à l'orbite de la Terre, on a également des saisons qui nous permettent de développement d'un certain nombre d'activités, dont l'agriculture, et etc. Voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour de ce que l'on pouvait dire sur ces positions, équinoxe, solstice, point vernal, précession. Ce sont des termes qu'on a un petit peu expliqués. Maintenant, on va revenir sur un événement qui s'est passé il y a deux jours et qui est aussi important et qui implique également de bien comprendre les positions du Soleil, de la Terre et de la Lune. C'est l'éclipse totale du Soleil qui s'est déroulée principalement aux États-Unis. Alors pour ça, je vais laisser la parole à Didier, qui va nous en parler un peu plus en détail.
Alors je vais vous dire quelques mots effectivement sur ce sujet d'actualité, la fameuse éclipse solaire, ce qui était une belle éclipse, qui a eu lieu le lundi 8 avril dernier. Donc elle a été, comme tu l'as précisé, visible sur le continent nord-américain, du nord du Mexique jusqu'à l'est du Canada, et elle a traversé les États-Unis. Donc des millions de personnes ont pu admirer ce phénomène. L'occultation totale du Soleil a duré en moyenne 4 minutes. Donc une nuit artificielle qui a duré 4 minutes. Mais sur les bases, qu'est-ce qui permet donc d'avoir ce spectacle qui est un peu unique en son genre ? Eh bien, je vous dirais que c'est probablement un heureux concours de circonstances. On va mettre en place un petit peu les pièces de ce puzzle. Alors, le phénomène d'éclipse ne peut se produire que durant la nouvelle lune. On dit alors que le Soleil et la Lune sont en conjonction avec la Terre. La conjonction, ça signifie que les trois astres sont alignés ou très proches. Donc, et c'est pour cela qu'on va distinguer différentes sortes d'éclipses. Tout d'abord, donc, cette éclipse totale où le disque solaire est complètement occulté par la Lune. Seule la couronne solaire, où on peut admirer les fameuses protubérances, est visible. L'éclipse annulaire, qui est un autre type donc, d'éclipse, a lieu lorsque la Lune est un peu plus éloignée de la Terre. Donc son diamètre est plus petit que celui du Soleil, et il va subsister un fin anneau solaire tout autour du disque sombre de la Lune. On a ensuite l'éclipse partielle, qui est l'éclipse la plus courante. La Lune n'est pas parfaitement alignée avec le Soleil, c'est ce qui est observé en particulier en dehors de la zone sur Terre où se situe l'ombre d'une éclipse totale ou annulaire. Enfin, on peut nommer l'éclipse hybride qui est à la limite entre l'éclipse totale et annulaire, mais je pense que ça reste une affaire de spécialistes. C'est vraiment un très fin disque qui est alors visible. Alors, ceci dit, une autre pièce de ce puzzle est indispensable et c'est un peu l'explication ou la raison de ce phénomène. Alors, je vais vous donner une petite explication chiffrée. La différence entre la Terre et le Soleil est environ 390 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre. D'autre part, le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune. Alors, puisque ces rapports sont approximativement les mêmes, les tailles apparentes depuis la Terre, du Soleil et de la Lune sont quasiment identiques. Et donc, lors de la conjonction, le disque lunaire vient tout juste cacher le disque solaire. Et une dernière chose, je dirais qu'il est encore plus extraordinaire, au travers des observations et des calculs des orbites, on a constaté que la Lune s'éloigne progressivement de la Terre. Et nous, Les hommes, nous sommes présents sur Terre dans l'histoire de notre planète juste au bon moment. Dans quelques millénaires, le spectacle de l'éclipse totale aura disparu, puisque la Lune se sera éloignée de la Terre et nous ne pourrons plus bénéficier de cette éclipse totale. De par la rotation de la Terre autour du Soleil, alors sans entrer dans des calculs astronomiques, les éclipses peuvent se produire au moins deux fois par an lorsque l'orbite de la Lune coupe ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et selon la course de la Lune sur son orbite, on peut en avoir jusqu'à cinq fois par an. Alors attention, ce sont majoritairement des éclipses partielles. L'éclipse totale, on l'a dit, ne se produit qu'à une position bien précise de la conjonction Terre-Lune-Soleil. Alors je vais revenir sur l'exemple de la dernière éclipse. Pour vous donner une idée, la largeur du trait sombre qui est produit par cette éclipse totale sur le sol terrestre est d'environ 200 km. Et cette ombre, elle va se déplacer de l'ouest vers l'est sur Terre. Alors concrètement, le 8 avril dernier, l'éclipse a commencé à être visible dans l'océan Pacifique. Sur la côte ouest, on va dire, du Mexique, ça a traversé le nord du Mexique, tous les États-Unis de travers, depuis le Texas jusqu'à la frontière canadienne du côté du Québec, donc la partie est du Canada, et cette éclipse va se terminer dans l'océan Atlantique Nord. Enfin, une éclipse totale est un phénomène naturel qui est suffisamment rare et spectaculaire, et de nombreuses personnes, les fameux chasseurs d'éclipses, n'hésitent pas à organiser de grands voyages pour assister à ce type d'événement. Les États-Unis, d'ailleurs, pour l'anecdote, avaient émis des alertes à l'encontre de leurs concitoyens pour qu'ils fassent des provisions par avance au risque de voir leur supermarché dévalisé par les hordes de touristes solaires. Mais malgré tout, certaines villes ont aussi profité de la manne en créant l'équivalent d'un festival de l'éclipse avec parking, restauration, de grands espaces pour se poser et observer, et sans oublier le fameux ticket d'entrée.
Oui, tout à fait. Alors, pour rassurer quand même les auditeurs, effectivement, on attend les éclipses totales avec beaucoup d'impatience. Mais aujourd'hui, on n'attend pas une éclipse totale pour pouvoir mener des études sur le Soleil. Alors, c'était le cas il y a jusqu'à la moitié du XXe siècle. Mais depuis l'invention du coronographe, qui, comme son nom l'indique, permet d'étudier la couronne solaire, invention française, il faut le dire, hein, un petit cocorico de temps en temps, ça fait pas de mal, par Bernard Liot. Les études sur la couronne solaire peuvent être menées quasiment quotidiennement. Mais on reviendra également sur l'invention du coronographe et notamment l'action de l'observatoire du Pic du Midi sur les études solaires dans une prochaine émission.
Ouais. Pour terminer, il faut rappeler une chose importante. Le soleil ne s'observe jamais sans protection visuelle. On utilisera toujours des lunettes spécialement conçues pour filtrer et diminuer l'intensité lumineuse. Et enfin, la prochaine éclipse visible en Europe, elle est prévue le 12 août 2026, donc prenez bien note. Elle sera partielle, vue de la France, mais totale en passant au Groenland, en Islande, sur l'océan Atlantique, et elle finira en Espagne au coucher du soleil. Donc ça sera l'occasion pour les chasseurs d'éclipses de se déplacer sur un territoire qui ne sera pas très loin de la France. Voilà concernant notre sujet sur les éclipses solaires.
Alors, on a parlé des équinoxes, on a parlé de l'éclipse solaire. Maintenant, on va parler de ce que l'on va pouvoir observer et ce qui va se produire un petit peu dans sur la sphère céleste dans les prochaines semaines. Donc, on va attaquer maintenant nos éphémérides. Alors, la pleine lune, là, on était en nouvelle lune, donc on ne la voyait pas en Europe. La pleine lune se produira le 23 avril. Le 24, en heure française, exactement. Et elle est surnommée la pleine lune rose, Donc c'est un événement un petit peu particulier. Alors non pas qu'il y ait un artiste qui ait peint la lune en rose, ni une tempête de sable qui s'est levée venant de Mars pour arroser la lune. L'origine de ce nom est plutôt amérindienne, en référence à la floraison du phlox, qui est l'une des fleurs les plus précoces d'avril en terre amérindienne. Le dernier quartier aura lieu le 1er mai, et la nouvelle lune aura lieu, elle, le 8 mai. La seule planète actuellement repérable à l'œil nu le soir, c'est Jupiter, jusqu'à fin avril, mais commence à être relativement basse sur l'horizon. Le matin, par contre, il est à nouveau possible de repérer les planètes Saturne et Mars, avant le lever, bien sûr, du Soleil. Alors, pour Saturne, elle est aux côtés du dernier croissant lunaire le matin du 4 mai. Un joli spectacle. Le lendemain, c'est Mars qui brillera aux côtés du croissant lunaire encore plus fin. Le 7 mai et le 8 mai, donc les 7 et 8 mai, il est en théorie possible de repérer aux jumelles Mercure et Vénus aux côtés d'un minuscule croissant lunaire dans un ciel de plus en plus clair. Donc, il va falloir avoir de bonnes jumelles et de bons yeux. Et la comète du diable, qui est encore présente, est repérable pour l'instant aux jumelles dans un ciel encore très clair, mais dans des conditions de plus en plus délicates, puisqu'elle aussi est de plus en plus basse sur l'horizon. À ce titre, d'ailleurs, ce soir, normalement, elle est visible et les conditions météo s'annoncent très bonnes, aux côtés de Jupiter. Donc, pour les amateurs, à sortir les instruments pour l'observer. Du 18 avril au 14 mai, le Soleil rentre dans la constellation du Bélier, et du 19 avril au 20 mai, il sera dans celle du Taureau. Voilà pour ces éphémérides. Et donc cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir écouté, et notamment l'Astromag, et votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.